On enchaîne avec l'invité de la rédaction, Armel Bounia, du collectif de soutien aux sans-papiers de Rennes. C'est avec toi, Marie, mais d'abord, extrait.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
Vous aurez reconnu le discours de l'abbé Pierre en 1954, l'occasion pour nous de nous interroger sur les violences systémiques et les injustices qui en découlent. Bonjour Armel Bounia.
Bonjour.
En cette journée mondiale du refus de la misère, nous vous recevons pour parler d'un sujet important, d'autant plus avec l'arrivée de l'hiver. Le 5 octobre dernier, 157 personnes migrantes ont été délogées par la police sur ordre du préfet des parcs Saint-Cyr et du parc de la Touche à Rennes. Elles y étaient installées depuis plusieurs semaines et parmi elles se trouvaient une cinquantaine d'enfants. Cette évacuation, elle a conduit à reloger une partie des familles, mais 70 personnes n'ont pas eu de solution et campent alors depuis dans le parc des Hautes-Ourmes. Des associations, des citoyens et citoyennes se mobilisent pour venir en aide. C'est le cas du collectif de soutien aux personnes sans papier à Rennes, dont vous faites notamment partie. Alors comment ce collectif vient-il en aide aux personnes migrantes en ce moment ?
Alors, en fait, on est l'interorganisation de soutien aux personnes exilées. Le collectif, c'est une autre association, mais peu importe. Voilà, on accompagne ces familles. Ça fait largement plus d'un an qu'il y a eu sans arrêt, des campements, des occupations, l'occupation d'un gymnase, puis à nouveau campement. Depuis plus d'un an, on n'a jamais arrêté d'avoir des gens à la rue. Donc là, il y avait deux campements cet été qui ont été évacués. Il y a eu des relogements, mais tous les gens les plus récemment arrivés sur les campements n'étaient pas répertoriés et n'ont pas eu de proposition. En fait, la préfecture savait très bien qu'en travaillant sur une liste fermée à une date donnée, elle savait très bien qu'il resterait des gens à la rue. Donc on s'est retrouvés avec 70 personnes environ, dont des enfants, sans solution pour le soir même. Et on n'a pas eu d'autre solution que de remonter un campement de l'autre côté de Rennes.
Quels sont les profils des personnes migrantes qui sont dans ce parc des Hautes-Ourmes, je pense au niveau professionnel, familial, mais aussi leurs origines peut-être ?
Oui, alors, question origine, il y a beaucoup de Géorgiens, beaucoup d'Albanais et quelques familles africaines. Question professionnelle, de toute façon, en France, aucun d'entre eux n'a l'autorisation de travailler. Donc, ils viennent d'horizons très, très divers quand on regarde les origines sociales des familles. Et c'est très, très divers. Parmi eux, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont des compétences, qui sont prêts à travailler, mais qui n'en ont pas l'autorisation. La grosse question, c'est surtout leur statut administratif, puisque la préfecture ne reloge qu'en fonction des statuts administratifs. Donc parmi eux, il y a des gens qui viennent d'arriver sur le territoire, qui vont déposer une demande d'asile, et qui ont droit, du coup, pendant leur demande d'asile, ça fait partie du statut. Ils auront un hébergement dans un centre dédié, mais il y a un battement de un mois et demi, avant qu'ils soient orientés vers ces structures. Donc il y a plusieurs de ces familles dans les campements qui sont dans cette situation-là, qui attendent un CADA. Et puis il y a les autres qui ont terminé leur demande d'asile, qui sont déboutées et qui, elles, là, se trouvent sans papier, sans argent, sans droit sur le territoire et pour qui la situation est... Il n'y a pas de perspective, quoi. Il n'y a pas de perspective de relogement.
Donc des personnes dans des conditions de précarité extrême, et on l'a dit, il y a des enfants parmi eux, dont certains sont scolarisés à Rennes. Dans plusieurs écoles primaires, comme dans celle de Lille ou de la Poterie, des parents se sont organisés pour leur venir en aide. Pourquoi et comment est-ce qu'il s'est organisé ce soutien ?
Les écoles ont peu à peu, après la rentrée, pris conscience de la situation de certains enfants. Pour les familles, ce n'est pas du tout évident de parler aux enseignants de leur situation. Certaines familles ont tendance à se dire « on ne dit rien ». On ne veut pas que notre enfant soit marginalisé dans la classe. Donc les familles ont quelquefois du mal à en parler. Mais au bout d'un moment, les enseignants remarquent bien le comportement de certains enfants qui sont très fatigués, qui s'endorment en classe, qui n'arrivent pas à se concentrer. Et petit à petit, ils prennent conscience de la situation. À l'école de Lille, il y avait un campement juste à côté de chez eux. La touche, c'était... Donc ils ont commencé à faire le rapprochement entre les difficultés de certains enfants et ce qui se passait dans le parc à côté de chez eux. Et les parents ont dit, mais on ne peut pas accepter ça. Enfin, ce sont les camarades de nos enfants qui viennent en classe toute la journée, mais qui retournent dormir dehors la nuit. Donc les parents ont décidé d'agir, ont souvent pris contact avec les associations en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et les associations leur ont dit, bah... Nous, association, on n'a pas de solution, vraiment pas de solution. On se bat depuis des mois et des mois et des mois et rien n'avance. Donc, voilà, si c'est un nouveau type de personnes qui se mobilisent, c'est très bien, ça renforcera la lutte, quoi. Donc voilà, dans plusieurs écoles de Rennes, les parents s'organisent pour que les familles puissent dormir dans l'école.
Et est-ce que vous redoutez une éventuelle évacuation des lieux ou pas du tout?
Non. Dans les écoles, non. Il semble que la mairie tolère complètement. C'est-à-dire que la mairie est sans arrêt sollicitée par les associations qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-nous, aidez-nous !» Elle est elle-même assez mal à l'aise de savoir que dans sa ville, il y a des gens qui vivent dans des conditions aussi précaires. Et a décidé de laisser faire dans les écoles. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer au moment des vacances scolaires, mais pour l'instant, la mairie tolère.
Pour poursuivre notre interview, je vous propose d'écouter la voix d'une parent d'élève, justement, présente lors du rassemblement de samedi dernier en soutien aux personnes migrantes.
Cette situation, elle ne peut pas durer. L'occupation des écoles n'est pas une situation, une solution, quelque chose de pérenne. L'occupation des écoles, c'était pour dire, il n'y a rien, c'est l'urgence absolue. Mais maintenant, la préfecture, les pouvoirs publics, l'éducation nationale doivent répondre. Et le silence qui est celui de ces pouvoirs publics aujourd'hui, il est absolument intolérable.
On vient d'entendre Caroline Hinault, parent d'élève de l'école de Lille à Rennes, lors d'un rassemblement qui a donc eu lieu samedi dernier. L'hébergement des personnes migrantes relève normalement, comme elle le souligne, des compétences des pouvoirs publics. Alors je voudrais revenir avec vous sur la déclaration de l'adjoint délégué à la solidarité, David Travers, qui avait dit dans un communiqué le 6 octobre que, je cite, « la responsabilité est celle de la politique migratoire de l'État dont il nous faut pointer les insuffisances ». Alors que pensez-vous du positionnement de la ville sur cette question ?
Il a raison, il a complètement raison. C'est la politique migratoire de la France qui crée ce genre de situation. Et clairement, c'est la préfecture qui est en charge de l'hébergement d'urgence. Et il a raison de dire que tant qu'il n'y aura pas de régularisation des gens qui sont sur le territoire depuis déjà pas mal de temps, qui ont appris le français, qui sont prêts à s'intégrer et à travailler... Tant qu'il n'y aura pas de régularisation de ces familles-là ou de ces personnes-là, qui sont souvent prises en charge par des associations, par la mairie, et qui ne peuvent pas partir. On leur a donné une place temporaire, mais ils ne peuvent pas partir puisque leur situation ne s'améliore pas. Donc tant qu'il n'y aura pas de régularisation, les générations ne feront que s'additionner les unes aux autres et on arrive à une saturation complète de tous les dispositifs. Donc sur ce plan-là, la mairie a totalement raison. Ceci étant dit, on est au mois d'octobre, il pleut, il fait froid. On ne peut pas laisser des enfants dormir dehors dans ces conditions-là, c'est juste impossible. L'été, c'est déjà pas confortable. Cet été, il y a eu les canicules, c'était pas non plus terrible. Mais là, on est à un point où il y a vraiment urgence absolue. La mairie n'est pas en charge de l'hébergement d'urgence, soit. Elle est quand même responsable de la sécurité des gens qui vivent sur son territoire. Et là, les gens ne sont pas en sécurité.
Quelles actions concrètes est-ce que vous attendez alors de la part des pouvoirs publics et notamment de la ville ?
C'est compliqué. La mairie nous rappelle sans cesse qu'elle fait déjà beaucoup. Et c'est vrai, puisqu'elle héberge chaque soir 950 personnes. C'est vrai. C'est vrai. Mais face à une situation de crise, il va bien falloir trouver des solutions. Si c'est des solutions momentanées, précaires, genre ouvrir un gymnase pour ne pas laisser les gens dehors le jour où il y aura la première grosse averse ou un orage ou une tempête, c'est pas satisfaisant, mais ce serait déjà mieux que rien. Et puis qu'elle nous soutienne au maximum auprès de la préfecture, quoi. Elle a quand même, la mairie d'une grande ville a quand même un poids auprès du préfet pour dire on peut pas accepter ça.
Dans les aides qu'on pouvait espérer, je voudrais revenir aussi sur la question du 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Il est très souvent saturé par des centaines d'appels quotidiens. Il y a d'ailleurs eu une grève lundi dernier car les salariés ont été exclus de la revalorisation de la prime du Ségur de la Santé. Alors comment faire dans ces conditions pour accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin, en dépit de finalement cette possibilité qui n'est plus possible ?
Le 115 est effectivement complètement débordé. Il y a un manque évident de places d'hébergement d'urgence. Les associations réclament depuis des années l'ouverture d'un centre d'accueil supplémentaire, ouvert 24 heures sur 24 et toute l'année. Le problème, c'est qu'on sait très bien que le manque de places, c'est pas une erreur, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une volonté de l'État de mettre les gens en situation très très difficile. Le calcul, c'est que peut-être, si c'est trop dur, ils finiront par rentrer dans leur pays d'origine. Mais ça ne fonctionne pas. Les gens qui sont sous tente depuis des mois et qui ne voient rien venir ne disent pas « c'est bon, on va partir ». Ça existe à la marge, il y a quelques départs, mais c'est minime. Les gens qui ont quitté leur pays ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Personne ne quitte son pays sans une motivation profonde. Quelquefois, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui les pousse à partir ? Mais on voit bien, vu comment ils vivent là depuis des mois et qu'ils cherchent à tout prix à rester, on ne les fera pas partir de cette façon-là. Donc c'est une politique qui n'a pas de sens.
Et ce qui permettrait à ces personnes d'avoir une situation plus stable, c'est évidemment la régularisation, le fait d'avoir des papiers pour avoir accès à un emploi. Alors pourquoi est-ce que ça prend autant de temps et pourquoi c'est si compliqué pour eux d'y avoir accès ?
Parce que l'État souhaite freiner l'arrivée des gens pour des demandes d'asile. L'État pense qu'une grande partie des demandeurs d'asile ne relèvent pas du statut de réfugié et donc souhaite freiner les arrivées de demandeurs d'asile en leur disant « si votre demande d'asile n'aboutit pas, vous ne serez jamais régularisé. Donc ça n'a pas de sens de venir ». C'est une politique qui fonctionne pas du tout. Une fois que les gens sont là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils sont arrivés. Et espérer réguler les arrivées d'exilés par la misère, par l'abandon dans la rue, c'est complètement inhumain.
Merci beaucoup, Armelle Bounia, d'être venue à notre micro. Je rappelle qu'un appel à la formation de chaîne humaine a été lancé pour ce mercredi 19 octobre à midi devant toutes les écoles de la ville. Et pour clore cette interview et dans le cadre de notre émission thématique sur cette journée mondiale du refus de la misère, je vous propose d'écouter une chanson de Clarica, bien méritée, et le texte parle de lui-même.
Que l'État m'a donné. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, partir, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à mettre en France. Et tant pis pour ta gueule si t'es né sous les bombes. Ma paume, bah ouais, tu l'as bien mérité. Si la terre est aride, y'a qu'à trouver de la flotte. Bah ouais, un peu de nerf, mon gars, pour la remplir ta hotte. Bah ouais, on prend pas un bateau si on sait pas nager. Bah non, on a que ce qu'on mérite, alors t'as mérité.